Maintenant, le compte administratif, donc Madame Delmas, budget principal et budget annexe. Voilà, donc je vous donne la parole.
Merci, Monsieur le maire. Donc, le budget primitif 2018 de la ville de La Teste a été adopté par le conseil municipal le 12 décembre 2017. Il a été amendé à deux reprises, le 11 avril 2018, avec le vote du budget supplémentaire 2018, et le 12 décembre 2018, avec le vote de la décision modificative numéro 2. Ce cinquième compte administratif de la mandature 2014-2020 s'est inscrit dans un contexte national marqué par un renforcement de l'encadrement budgétaire. Sur le plan local, ce compte administratif s'inscrit dans la continuité de l'action engagée au cours des années précédentes, marqué par des investissements structurants pour notre ville, tels que le théâtre Cravet, tout en poursuivant l'aménagement urbain avec 12 millions d'euros sur l'exercice 2018. Parallèlement, nous avons lancé un diagnostic et une étude organisationnelle dans le but d'optimiser les services de la ville. Donc, de façon traditionnelle, ce rapport se présente en deux parties, le compte administratif du budget principal et trois budgets annexes. On vous a retracé le tableau des grands équilibres. Donc, les recettes de gestion se chiffrent à 38,81 millions d'euros, ce qui représente une hausse des ressources de 1,8%. Elles représentent les impôts et taxes, les dotations, subventions et participations et les autres produits de gestion courante. Tout d'abord, les impôts et taxes. Ces recettes représentent près de 84% des recettes de gestion en 2018. La progression des recettes fiscales de 2017 à 2018 s'élève à 818 102,96 euros. Comparée à la progression constatée entre 2016 et 2017, qui était de 1 237 813 euros. Donc nous avons les produits de contribution directe qui se sont élevés en 2018 à 27 324 660 euros. Cette évolution s'explique par la revalorisation parlementaire dans le cadre de la loi de finances, plus 1,12%, et la variation physique des bases du fait des constructions nouvelles, sachant bien entendu que les taux d'imposition n'ont pas évolué depuis 2015. Nous avons la fiscalité redistribuée par la COBAS, qui est en baisse par rapport à 2017, du fait de l'attribution de compensation en diminution de par le transfert de la gestion du stade nautique à la COBAS. Les autres taxes se maintiennent à un niveau particulièrement élevé, soit plus de 5 millions d'euros, et nous avons dans ces autres taxes principalement les droits de mutation, qui s'élèvent sur l'exercice 2018 au même niveau que 2017 et pour un montant relativement élevé de l'ordre de 3 327 801 euros. Nous avons des dotations, subventions et participations à hauteur de 4,58 millions d'euros. Tout d'abord, la DGF, équivalente à l'année 2017 pour 2 628 645. La DNP, dotation nationale de péréquation, également équivalente à 2017 pour 463 640 euros et des subventions de fonctionnement perçues à hauteur de 590 571 euros. Les autres produits de gestion, quant à eux, s'élèvent à 1,82 million d'euros. Donc nous avons les produits de services et domaines pour 1 257 141,64 euros. Les produits de différents jeunesse, périscolaire, etc., ainsi que les remboursements sur charge. Les autres recettes s'élèvent quant à elles à 344 467,89 euros. Ce sont les autres produits de gestion courante, notamment les propriétés communales, les produits des DSP, restauration et stades nautiques. Et enfin, nous avons des produits d'atténuation de charge à hauteur de 67 873,13 euros. Nous passons aux charges de gestion. Elles s'élèvent en 2018 à 27 045 170,32 euros, soit une légère baisse de 154 000 euros. Donc on constate qu'elles sont maîtrisées puisque la croissance est limitée à 0,6%. Le principal poste de ces dépenses de gestion est le poste charge de personnel. Elle s'élève à 16,71 millions d'euros. Leur poids dans les dépenses réelles de gestion est de 61,8%. Mais vous pouvez constater dans un tableau comparatif avec les communes de même strate que nous sommes inférieurs aux autres communes. Les charges de transfert, elles s'élèvent à 3,06 millions d'euros. Donc cela retranscrit les contingents et participations, les subventions de fonctionnement et les autres charges de transfert. Nous avons tout d'abord des contingents et participations à hauteur de 168 250,68 euros. Les subventions de fonctionnement se sont élevées en 2018 à 2 572 302,42 euros. La principale subvention est celle versée au CCAS à hauteur de 1 600 000 euros sur l'exercice 2018. Donc, en baisse par rapport en 2017, mais ce n'est qu'un ajustement comptable par rapport au niveau du fonds de roulement du CCAS et en aucun cas une baisse des services aux usagers qui sont bien évidemment maintenus. Nous avons la subvention à la Caisse des écoles, 40 000 euros. Le versement de subventions aux associations en légère hausse sur l'exercice 2018 à hauteur de 517 565 euros. Il faut également souligner l'effort en matière de compensation de la restauration scolaire qui s'élève à 372 517 euros, ainsi que la compensation de services publics liés à l'activité du stade nautique à hauteur de 40 280,29 euros, donc en baisse pour 2017 du fait du transfert de cette gestion à la COBAS. Les autres charges de transfert à hauteur de 317 487 euros, dans lesquels on retrouve les indemnités d'élus et les admissions en non-valeur. Les autres dépenses de gestion, à hauteur de 7,28 millions d'euros, dont nous avons pour l'essentiel les charges à caractère général, à hauteur de 6,8 millions d'euros, qui comprennent les achats, 2 millions d'euros, les services extérieurs pour 3 millions, les autres services à hauteur de 1 188 000. Elles intègrent les loyers R2 et R5 versés à la COBAS, au titre du stade nautique, pour la période allant du janvier à juillet, notamment, ainsi que impôts et taxes et versements assimilés à hauteur de 264 230 euros. Nous avons les reversements sur recettes, donc notamment pour l'OFPIC, à hauteur de 413 699 euros. Et aucun prélèvement au titre des pénalités SRU n'a été effectué sur 2018. Nous avons vu donc les charges de gestion. Donc, nous dégageons un excédent brut de gestion ou épargne de gestion conséquente à hauteur de 11,76 millions d'euros, qui correspond bien évidemment à la différence entre les produits et les charges de gestion. Donc vous avez un tableau qui retranscrit les évolutions de cette épargne de gestion donc depuis 2016, 2017 et 2018, qui passe de 9,69 millions à 11,76 millions d'euros. Cette épargne de gestion, naturellement, va nous permettre de régler les intérêts de la dette bancaire et PPP. Nous avons un solde exceptionnel de 2,31 millions d'euros. Donc, dans les recettes exceptionnelles, nous enregistrons en 2018 2 166 058, issus essentiellement des cessions d'éléments du patrimoine à hauteur de 2 127 000. Nous avons des recettes exceptionnelles cumulées de 166 281, émanant principalement des remboursements d'assurance. Et également d'autres recettes exceptionnelles. Il y a des indemnités perçues suite à des jugements, des reversements de revalorisation de certificats d'économie d'énergie, etc., des pénalités sur marché, etc. Nous avons donc, après ces charges exceptionnelles, de 18 320 000 euros, une capacité d'autofinancement qui reste à un niveau très élevé, de l'ordre de 13,23 millions d'euros. La capacité d'autofinancement épargne brute cumule le solde de gestion, le solde financier et le solde exceptionnel. Alors, il est en diminution par rapport à 2017, puisque vous vous souvenez, en 2017, nous avions eu la cession de la Semlat. Donc, si on neutralise les produits de cession, ce solde intermédiaire s'élève à 11 065 713 euros, à comparer en 2017 à 9 516 128,33 euros. Donc ce solde intermédiaire de gestion va nous permettre de rembourser le capital de la dette qui s'élève à 2,67 millions d'euros. Donc le remboursement du capital figure aux articles 1641 en euros. Nous avons également une option de tirage sur la ligne de trésorerie. Donc en 2018, ce montant s'élève à 2 395 979,09 euros. L'encours de la dette sur emprunt bancaire s'élève au 31-12-2018 à 25 596 377,86 euros. Naturellement, nous avons également le remboursement du capital de la dette afférent au contrat de partenariat de société Oxyfip pour 251 812,74 euros. Et l'encours de dette PPP au 31 décembre 2018 s'élève à 7 731 447,72 euros. Il est à noter que notre dette est très sécurisée puisque en taux fixe, la part du taux fixe représente pratiquement la totalité de la dette, 96%. Nous avons seulement 2,17% de prêts à taux structuré en reliquat et 1,94% de prêts à taux variable. Donc, nous dégageons une épargne nette ou autofinancement à paiement donc du remboursement du capital de la dette, un montant de 10,56 millions d'euros. Vous avez également un tableau qui retranscrit l'évolution de l'autofinancement avec et sans les produits de cession. Donc cet autofinancement net nous a permis en 2018 de financer les dépenses d'investissement à hauteur de 17,16 millions d'euros. Vous avez également un tableau qui représente l'évolution de ces dépenses d'investissement, plus de 14 millions en 2016, plus de 16 millions en 2017 et plus de 17 millions en 2018. Donc nous avons également des reversements sur dotation à hauteur de 66 752. Les dépenses d'équipement sont pour partie en direction de l'administration générale pour 2 190 192,70 euros. Pour la sécurité et la salubrité publique, 217 879 euros. Pour, donc, entre autres, le déploiement du réseau de vidéoprotection et l'équipement du matériel pour la police municipale. Nous avons pour l'enseignement 168 037, pour la culture 1 897 609 euros, sport et jeunesse 443 231 euros, action sociale 25 187 euros, pour les familles 47 387 euros, et pour le développement urbain 12 068 743 euros. Nous avons donc vous avez les quelques programmes cités, hein, la poursuite de l'aménagement du cœur de ville, le programme de rénovation de l'éclairage public, l'aménagement du giratoire des Arbousiers, l'aménagement de l'avenue Pasteur, des rues Gaston de Foix, des Prés Fleuris, Pelletan, Langevin, La Teste, l'aménagement de la rue du Puy, Porteny à Cazaux, l'aménagement des avenues de Gaulle et du bassin au Pilat. Évidemment, nous avons eu également des recettes d'investissement à hauteur de 4,27 millions d'euros, donc les dotations pour 3 755 012 euros qui se décomposent en produits de la taxe d'aménagement pour 1 692 000 euros et des produits du FCTVA pour 2 062 000 euros. Des subventions à hauteur de 477 547 euros. Des opérations financières pour un montant de 4 613 euros et des produits de cession d'immobilisation. Nous l'avions déjà signalé, aucun emprunt nouveau a été réalisé en 2018. Et ainsi, nous dégageons un fonds de roulement de 27,7 millions d'euros. Au 1er janvier 2018, ce fonds de roulement était de 30 027 713 euros, ce qui veut dire que les investissements réalisés en 2017 impactent le fonds de roulement à hauteur de 2 326 926 euros. Nous avons des mouvements qui ont été neutralisés dans le tableau des grands équilibres. Nous vous avons fait un tableau des résultats comptables. Et donc, le solde de clôture de l'exercice 2018 est de 19 763 562,26 euros. Comptablement, les résultats de l'exercice budgétaire 2018 font donc apparaître un excédent de fonctionnement cumulé de 25 862 410,24 euros, un excédent d'investissement cumulé de 1 838 376,76 euros et un solde des restes à réaliser de moins 7 937 284,73 euros. Ces données brutes retranscrivent un niveau de dépenses d'investissement élevé avec plus de 17 millions d'euros d'équipements nouveaux auxquels il convient d'ajouter les opérations déjà engagées pour un montant de près de 8 millions d'euros, une bonne maîtrise des charges conjuguée à un désendettement qui permette une politique tarifaire des services en faveur de l'ensemble des publics au plus juste, des ressources en progression sans augmenter la fiscalité locale. Un résultat exceptionnel, nous garantissant le financement des projets à venir. En ce qui concerne les budgets annexes, pour le budget annexe de l'île aux oiseaux, l'exécution budgétaire 2018, donc, se fait apparaître un fonds de roulement de 249 711 euros au 31 décembre 2018, avec un excédent cumulé de fonctionnement de 195 098,95 euros, un excédent cumulé d'investissement de 54 612,76 euros. Pour le budget annexe du parc des expositions, nous avons un fonds de roulement en fin d'exercice de 75 632,64 euros, un excédent cumulé de fonctionnement de 110 112,52 euros, un déficit cumulé d'investissement de 34 479,88 euros, un encours de dette de 274 934,50 euros. Et enfin, pour le budget annexe du pôle nautique, nous avons un fonds de roulement d'un montant de 317 886,81 euros, un excédent cumulé de fonctionnement de 179 881,97 euros, un excédent cumulé d'investissement de 138 004,84 euros et un encours de dette de 27 133,89 euros. J'ai terminé avec la note de présentation du compte administratif 2018, budget principal et budget annexe. Peut-être qu'on peut lire la délibération avant ou on discute après. Voilà.
Oui, non, mais après. Bon, merci Christine pour Delmas, donc pour ce rapport de présentation très très détaillé. Je voulais signaler l'arrivée de Monsieur Pastoureau. Voilà. Bon, je veux évidemment remercier Madame Delmas donc pour ce rapport et évidemment remercier tous les services des finances pour l'élaboration de ce compte administratif. Bien, nous allons passer à la discussion. Y a-t-il des interventions? Monsieur Pradérol? Monsieur Joseph? C'est bon. Alors, monsieur Pradérol.
C'est le dernier CA que nous examinerons dans cette configuration. Celui de 2019 sera voté par une nouvelle assemblée. Même s'il n'est pas le dernier de la mandature, donc, je vais varier un peu les plaisirs. Ce sera l'occasion pour nous de faire un bilan global. La commune est devenue une commune riche. Ses ressources ont augmenté plus en proportion que celles des communes voisines. Il sera intéressant de rappeler comment la commune est devenue riche et de nous interroger sur la seule question qui vaille. Cette augmentation conséquente des ressources s'est-elle accompagnée d'une progression équivalente de la qualité de vie des testerins? Si l'on se réfère au CA 2008, le dernier à ne pas relever d'une de vos deux mandatures, le montant des impôts et taxes s'élevait alors à 21 657 000. Aujourd'hui, 10 CA plus tard, nous en sommes à 31 743 000, soit plus de 50% de plus, ce qui est tout de même considérable. Cet emballement provient clairement de deux facteurs qui se conjuguent. L'augmentation des taux et la revalorisation des bases sous ces deux aspects. La revalorisation votée par le Parlement chaque année d'une part et d'autre part l'augmentation des taux votés par l'exécutif, ici, conjuguée à la variation physique des constructions constatées. Au niveau municipal, donc, l'exécutif peut jouer sur les variations de taux et sur la variation physique des constructions en favorisant la promotion immobilière, par exemple. Et pas de doute, c'est bien ce qui se passe chez nous depuis 10 ans. Deux augmentations des taux votées par la majorité municipale en 2011 et en 2015 ont ouvert chaque mandature, alors qu'aucun besoin particulier ne l'exigeait. Deux fois plus 3%, à mon avis, pour rien. Notre capacité d'autofinancement se rétablissait. Le montant de la dette se trouvait à hauteur de 15 millions d'euros. Et surtout, une politique de promotion immobilière schizophrénique s'est emparée de vous dès votre premier mandat pour ne plus vous lâcher. Les constructions se sont succédées par empilement et ont généré des ressources nouvelles. Le marqueur que constitue la ligne budgétaire concernant les droits de mutation est édifiant. En 2008, 1,5 million d'euros contre plus du double maintenant en 2017 et 2018, avec 3 200 ou 300 000 euros. Cette manne ne tarira pas, même si la production immobilière venait à s'essouffler. Ces nouvelles constructions sont souvent achetées par des personnes qui préparent leur retraite ou qui sont retraitées. Les rotations de propriétaires seront plus fréquentes, c'est la loi humaine. Et donc, l'enveloppe ne va pas se dégonfler. La population accueillie ne nécessite que peu d'investissement, si ce n'est celui de la tranquillité publique. Pas besoin d'école, de garderie, d'ALSH. Les baisses successives de la dotation globale de fonctionnement sont passées quasiment sans douleur. Elles nous ont même permis de revenir à égalité avec les communes de même strate, puisque cette dotation, rappelez-vous, nous était particulièrement défavorable. Un nivellement par le bas, je vous l'accorde. Outre l'augmentation des ressources de la collectivité, nous avons assisté à la transformation de la COBAS en véritable collectivité d'investissement. C'est le terme employé par le président que vous chérissez tant. Piscine, école, pistes cyclables, voirie dédiée à l'activité économique, transport en commun, gestion des réseaux de l'eau potable, pôle d'échange multimodaux, activité économique, tourisme, culture, vous avez raison de bavarder, ça vous évite d'entendre ça. Je vais recommencer si vous voulez. Alors, donc je recommence. C'est ça que vous voulez, monsieur Bieler. Je sens que vous avez une appétence de ce niveau. Hein? Voilà. Alors, piscine, école, piste cyclable, voirie dédiée à l'activité économique, transport en commun, gestion des réseaux de l'eau potable, pôle d'échange multimodaux, activité économique, tourisme, culture, les déplacements avec le prolongement de la 660, etc. En plus de ces prérogatives historiques, le CIBA s'est vu confier l'assainissement des eaux pluviales en 2014, antérieurement de la compétence des communes. Suite à ces énumérations, même si on ne veut pas l'entendre, on prend la mesure des dépenses transférées que nous n'avons plus à honorer, qu'il faut mettre en perspective avec les nouvelles ressources mobilisées. Notre capacité financière ne cesse d'augmenter alors que certains de nos besoins, parmi les plus dispendieux, sont pris en charge par d'autres collectivités ou organismes. Délivrés de ces investissements, que faisons-nous, que nous ne faisions pas? On va prendre, si vous le voulez bien, quelques points essentiels du quotidien. La fonction de se déplacer dans les déplacements. Un effort d'investissement a été fait dans la réfection des voiries. C'est d'ailleurs et de loin l'investissement le plus important sur l'ensemble de la commune et sur le mandat. Vous aviez annoncé à votre arrivée la mise en œuvre d'un plan de circulation plus fonctionnel. Il est simple de dénoncer ce que l'on suppose être des aberrations. C'est autre chose de s'attaquer au plan global, car toute modification, aussi légère soit-elle, en implique d'autres qui remettent l'ensemble en question. Devant la difficulté, vous avez renoncé, mais les difficultés s'accentuent avec une population en forte croissance en centre-ville, du fait toujours des constructions. Pour les autres déplacements, c'est toujours plus de galères. Pour les piétons, pour les personnes âgées, les poussettes, les personnes à mobilité réduite, mais aussi les cyclistes. Toujours plus de galères, car à la situation initiale bien connue de tous, absence ou étroitesse des trottoirs, leur mauvais état quand il y en a, s'ajoutent les conséquences d'un centre-ville constamment en chantier, avec la signalisation fétiche, piéton, changé de côté. On ne voit toujours pas, ne serait-ce qu'un embryon, de politique de déplacement. Il faut dire que vous ne prévoyez pas pour sitôt la fin des promotions immobilières. Dans les dépenses d'équipement associées à 2018, on en est encore à des travaux d'accessibilité handicap aux équipements sociaux et culturels. Hormis l'amélioration manifeste des revêtements d'une partie significative du réseau de voirie, sur la problématique des déplacements doux en centre-ville, non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle a empiré. Les commerces. Ils ne manquent pas sur la zone commerciale, mais ils n'arrivent pas à se maintenir en centre-ville. Nous l'avons dit plusieurs fois, il manque toujours un projet de maintien des commerces en centre-ville. Je ne reviendrai pas sur le déséquilibre causé par la concentration des commerces sur la zone, au détriment de l'activité et de l'animation du centre-ville, on l'a suffisamment évoqué. C'est un choix que vous avez imposé, il condamne le centre-ville. Cette situation est préjudiciable pour les personnes âgées qui viennent vivre ici, et notamment en centre-ville. Elle est aussi préjudiciable pour l'animation du centre-ville. Quand on invoque ce sujet, ne vient à l'esprit que le marché du dimanche matin. C'est bien peu pour une ville de 26 000 habitants. Tous les villages ou petites villes sont fiers de leur marché hebdomadaire, mais une ville de cette importance pourrait avoir d'autres ambitions de vie et d'animation. Enfin, que penser de ce transfert de l'activité commerciale et alimentaire au-delà de la deux fois de voie en devenir? Cette zone est saturée par le trafic de véhicules de tout type qui ne font pas tous bon ménage entre eux. La zone de chalandise de ces commerces s'est élargie, amenant toujours plus de clients. Pas besoin d'être devin pour prévoir que le prolongement de l'A660 ne suffira pas à absorber tout ce trafic. Pour les commerces, cette nouvelle configuration a éloigné les habitants des enseignes commerciales et a mis en péril les boutiques du centre-ville dont le modèle économique s'est fragilisé. Sur ce point aussi, la situation de certaines de nos concitoyennes ne s'est pas améliorée. Troisième exemple, le logement. Se loger devrait faire partie de vos satisfactions puisque vous vous engagez sans retenue dans l'exercice. Mais le logement n'est que la conséquence de votre politique d'urbanisation qui fait la part belle, hélas, à l'affairisme et la spéculation. Souvenez-vous ce que vous souteniez quand vous étiez dans l'opposition. Ça vous est arrivé, et oui. Il fallait urbaniser à tout va. Et vous affirmiez que cela ferait baisser la pression sur les prix du foncier. Non, votre urbanisation est devenue le terrain de jeu de la spéculation. N'allez-vous pas payer, nous le verrons dans une prochaine délibération, une vieille maison à démolir sur un petit terrain en centre-ville, 1000 euros le mètre carré? Cette extravagante montée des prix ne facilite pas la construction de logements sociaux, qui sont les seuls que peuvent se payer les salariés, les employés qui travaillent ici et qui veulent y vivre. Le CA de 2018 n'enregistre aucune pénalité SRU à ce titre, mais souvenons-nous qu'en 2017, il a fallu donner 350 000 euros. Autre point, la tranquillité publique. C'est un sujet, ou plutôt la sécurité, si vous préférez, qui fait à la fois partie de l'attractivité du territoire, selon vos principes, et normalement de l'ADN supposé de vos anciens engagements politiques. Mais si j'ai choisi le terme de tranquillité publique, c'est bien parce qu'elle relève de la compétence municipale. Je n'avais pas prévu que Mme Pace intervienne en début, et par contre j'avais prévu d'intervenir sur ce problème-là. L'actualité récente vient de montrer que nous ne sommes jamais à l'abri d'un incident, voire d'un accident. Je fais référence à l'article de l'hebdomadaire La Dépêche du Bassin, du 28 mars, relatant l'agression dont fut victime donc Mme Pace Sanchez, élue ici partie, et sa famille. Cette agression s'est déroulée devant leur domicile qui se trouve aux abords d'un établissement de nuit. À la lecture de cet article, je me suis interrogé, car notre collègue évoque dans les propos du journal ce que moi je pointe comme des abandons. En effet, au début du mandat à Commirande, nous nous étions coordonnés avec la police sur une prise en charge complémentaire, police nationale, police municipale, de tous les problèmes de délinquance ou de perturbation. Et nous avions signé et mis en œuvre un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance qui avait trait à la sécurité et notamment aux abords des établissements de nuit sur l'ensemble de la commune, ceux du Pilat mais aussi ceux du centre-ville qui en comptait deux au tout début, dont le Surf Café concerné aujourd'hui. Je précise que la situation n'est pas nouvelle, et nous avions demandé par trois fois et obtenu du préfet des fermetures administratives. De 2001 à 2003, j'étais en charge de ce dossier, nous l'avons élargi à la COBA dans le cadre de la politique de la ville en signant avec le représentant de l'État un contrat d'agglomération de sécurité et de prévention de la délinquance. Renseignement pris, lorsque j'ai retrouvé la COBA en 2014, ce CASPD semble avoir sombré avec le concept de politique de la ville. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, mais ça a sauté. Voilà. Qui a été. Ça n'aurait pas été grave s'il avait été remplacé par un autre dispositif, mais manifestement, ça n'est pas le cas. Pour les établissements de nuit du Pilat, chaque année, un article est consacré dans la presse à la signature entre le sous-préfet et vous d'une charte des établissements de nuit. C'est sympathique, mais un engagement du type antérieur m'apparaît plus pertinent parce que ces problèmes ne commencent pas en juin et ne s'arrêtent pas en septembre. Enfin, ne commencent pas, ou ne sont pas susceptibles de commencer en juin et de se terminer en septembre. Et ils ne relèvent pas que d'un seul territoire, c'est-à-dire du seul secteur du Pilat. C'est pénible, ça. Est évoquée dans cet article la police municipale qui doit retrouver un effectif suffisant. Une vidéosurveillance qui ne fonctionne pas, cela fait beaucoup d'insuffisance. J'avais lu l'article comme vous, je pense. Il va au-delà de ce que je dis et j'avais prévu de ne pas aller plus loin, mais le fait que Madame Pace Sanchez ait fait cette déclaration nous permet aussi de ne pas oublier que c'est quand même dur dans une municipalité de droite de s'entendre dire que il faut remettre la sécurité.
La qualification, M. Pradirol, ici on gère la ville. Hein,
voilà. Oui, vous gérez la ville. Mais il faut, bien évidemment, mais moi, évidemment. Il faut remettre la sécurité en qualité de priorité dans la politique de votre ville. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est votre collègue. On est toujours à la droite de quelqu'un, alors on dira ça. Alors on comprendra, c'est certain, que la tranquillité publique ne fait pas partie des investissements prioritaires et qu'ils sont en progression, c'est clair. Les services. Parmi les offres nouvelles, il faut saluer la création de la centrale, qui constitue un concept très intéressant pour des publics de tous âges et qui rencontre un franc succès. Pour le reste, nous sommes toujours dans la reconduction des projets antérieurs, avec, lorsque là se présente, toujours le même choix de gestion, la délégation de services publics. À celle de la restauration existante depuis de nombreuses années, vous y avez ajouté celle de la gestion de la piscine, celle du portage des repas, celle de l'entretien et la maintenance de l'hôtel de ville par le biais du PPP, celle sous une autre forme des équipements lumineux, avec y compris la mise en place et la dépose des luminaires de Noël. Vous avez renoncé à mobiliser un autre PPP sur ce dossier, arguant que cette forme serait attaquée par l'opposition. Vous aviez bien compris et vous avez été en effet bien inspiré. Alors venons-en aux finances. Nous avons vu, les ressources financières sont très confortables, avec près de 39 millions d'euros pour les recettes de gestion, contre 27 millions d'euros en dépenses. Si vous faites la différence, ça nous donne 12 millions d'euros. Le tout, abondé de plus de 2 millions d'euros de cession, ça donne une idée du confort actuel. Au niveau de l'investissement, 17 millions d'euros ont été mobilisés, contre un peu plus de 4 millions d'euros de recettes. S'agissant du poids de la dette, elle nous coûte 850 000 euros au titre des intérêts d'emprunt et 2 670 000 euros au titre du remboursement du capital de la dette. Il faut tout de même garder à l'esprit les effets de votre décision surréaliste et fébrile que j'ai déjà dénoncée ici, mais nous la traînons. Au cours du cheminement juridique sur le PPP qui nous a opposés, vous avez décidé vers novembre 2016 de résilier le contrat de partenariat. Vous avez contracté un emprunt sur 23 ans de 8 400 000 euros, au taux de 1,29% pour rembourser l'emprunt d'un montant équivalent à OSIFIP, lui au taux de 3,74%. Cette somme empruntée de 8 400 000 nous accompagne depuis, enrichie d'un montant d'une dizaine de millions, 8 millions d'euros de cession que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est pourquoi nous enregistrons un fonds de roulement de 27 700 000 euros. Vous imaginez, permettant de financer sans problème, bien évidemment, les restes à réaliser. Et pour le reste, plus de 19 700 000 euros à affecter au BS 2019. À mon avis, voilà une cagnotte qui va nous accompagner quelques années encore. En conclusion, les ressources supplémentaires disponibles ne profitent pas à la qualité de vie de nos concitoyens. Pour notre part, nous notons plus de dégradation que de progrès, et nous le déplorons. Au lieu de cela, notre collectivité thésaurise. Ce n'est pas son rôle. Merci.
Merci, M. Pradérol. Je vous répondrai après sur le contrat local de la délinquance, etc., etc. Des tas de contre-vérités. Voilà, les taux, les trucs, voilà. Bien, je répondrai après, je vais laisser la parole à M. Joseph.
Oui, merci, M. le maire. Oui, en préambule, il est assez regrettable que sur un certain nombre des points soulevés par M. Pradérol, je le rejoigne aujourd'hui, lors du premier mandat, nous l'accusions de procès d'intention. Malheureusement, la réalité nous rattrape sur un certain nombre de sujets, l'urbanisme en l'occurrence. Mais... si je peux parler. Oui, alors l'urbanisme, je vais vous l'éviter tout de suite. On aura un sujet très intéressant à traiter ensemble tout à l'heure. Comme face au vote du budget pour 2019, je me suis fortement posé la question de mon vote. Alors, je n'ai pas de difficulté à défendre mes différents votes en deux mandats, en faveur des différents budgets. Sur le terrain comptable, il n'y a rien à redire. J'ai précisément... une haute considération pour les agents de la fonction publique territoriale qui sont derrière ces comptes, mais j'y reviendrai. Nous avons la chance de bénéficier d'une ville dynamique, nous en parlions à l'instant, cela n'a pas toujours été le cas. Les finances sont au beau fixe et il ne semble pas que le dynamisme de la commune vienne infléchir à court délai. La population testerine augmente, elle augmente d'autant qu'elle trouve à se loger, et elle trouve inexorablement à se loger sur le territoire testerin. Tout va donc très bien, les impôts, la part communale n'a pas augmenté. La COBAS, au travers de sa présidente, que vous saluiez lors de vos vœux, participe pleinement à son effort de redistribution et transformation de notre agglomération. Ceci étant dit, je vais m'arrêter que sur un seul élément. et qui justifiera mon vote de ce jour. En effet, durant tous ces mois où a été engagée une concertation avec les agents de la ville, je suis resté discret sur un sujet qu'il ne s'agissait pas de politiser, créer le doute d'une récupération politique. Alors que les faits sont bien là et qu'ils vous discutent une harmonie de façade, mais la glace est depuis brisée et comme d'autres, j'estime que mon devoir est de prendre acte. Alors comme d'autres, se rajoutant encore aujourd'hui Cécile. Et je le regrette. Je prends donc acte ici que les agents municipaux ne bénéficient pas du meilleur cadre pour accomplir leur mission. Le cadre managérial a été très largement dénoncé et débattu ces derniers mois, mais je décide aujourd'hui à cela rajouter qu'en matière de service public et donc du public testera, tout n'est pas mis en œuvre afin de donner les moyens humains nécessaires à la bonne application de la politique municipale. Il y a des symptômes, il y a des causes. Une des causes est le fait de s'enorgueillir par rapport aux villes de même strate, donc de 20 000 à 50 000 habitants, d'être en deçà de 20% en matière de charges de personnel, précisant même, tenant à appuyer là-dessus, étonnant de la part d'une ville soumise à saisonnalité. C'est affligeant, à mes yeux. Je pointe une dégradation des services à la population, nous le constatons encore aujourd'hui, je le répète, je ne pouvais pas prévoir l'intervention de Cécile. Pour tout ça, et bien plus encore, nous en reparlerons tout à l'heure, j'aurais tendance à désapprouver ce compte administratif. Voilà. Et je souligne votre aveuglement. Au passage, hein, et j'ai beaucoup apprécié, c'est particulièrement ironique, les termes que vous avez employés pour justifier votre position. On n'était pas obligé d'employer certains termes qui étaient particulièrement méprisants à l'encontre de Cécile. Voilà, j'ai terminé.
Je ne vois pas en quoi j'ai été méprisant vis-à-vis de Mme Peyce. Sincèrement, les relations que j'ai avec elle, bon, elle exprime ce qu'elle veut, et je pense que durant tout ce mandat, je pense que je lui ai témoigné beaucoup de choses et je lui ai bien facilité la vie. Voilà, je tiens à dire ça. Je n'ai pas autre chose à m'expliquer et je trouve, je ne vais pas dire autre chose et j'estime ce que vous pouvez dire de méprisant. Sincèrement, vis-à-vis de tout ce que j'ai pu faire, je pense que ça pourrait être tout à fait différent. Je tiens à vous le dire. Bien. Madame Delmas, peut-être quelques réponses. Sinon, après, je vais répondre à Monsieur Pradérol.
Simplement, je pense que Monsieur Pradérol a une mémoire très sélective. Vous mémorisez bien ce qui est fait par la COBA, c'est absolument pas les réalisations qui ont été faites dans votre commune. Tout simplement, sur depuis 2008, il a été réalisé 150 millions d'euros d'investissement. C'est énorme. Je crois qu'on est la commune qui investit le plus. Donc, et ces investissements sont faits pour améliorer le cadre de vie de l'ensemble des testeurs. Notamment, il y a la voirie, bien sûr, mais pas uniquement. Il y a des tas d'équipements pour le cadre de vie, le plaisir de vivre dans notre commune. On ne va pas les citer, ce serait beaucoup trop long. Votre mémoire est vraiment très sélective. Vous avez parlé du manque d'animation du centre-ville. Et pourtant, tous les efforts ont été ciblés justement pour redynamiser ce cœur de ville. Et vous avez oublié que les sessions d'actifs dans la zone d'activité, c'est vous. C'était en 2005, 2006. Oui. Voilà, c'est tout. On revient beaucoup. Et là, sur les ratios, ils sont très bons. Au niveau de la pression fiscale, on est comme nos communes voisines par rapport au revenu moyen par habitant. On a un encours de dette par rapport à la CAF inférieur à 3 ans. Donc, faire tous ces investissements en conservant ces équilibres et ces ratios de structure qui sont très bons, on ne peut que féliciter la politique de Monsieur le maire. Et puis, je voudrais rajouter aussi, parce que, évidemment, que tout le monde parle, on a été tous choqués par ce qui est arrivé à Cécile. On en a largement débattu et en réunion d'adjoints, et en groupe majoritaire, et je crois que tous, on a pu témoigner notre soutien sous différentes formes. On n'a pas attendu ce jour-là et on n'attend pas aujourd'hui, parce qu'il y a la presse, de dire on va témoigner notre soutien. On l'a fait depuis un moment, soit vers des petits coups de fil, des visites, etc. On est tous choqués par le traumatisme qu'a subi Cécile, mais on ne peut pas accuser pour autant Monsieur le maire. C'est pas possible. On a tous aussi dans notre vie eu des traumatismes, des agressions, des attaques, hein, parfois, hein. C'est pas pour autant qu'on a accusé notre patron, je parle pour moi parce que j'étais dans une banque, etc. Voilà. Donc, c'est pas parce que... Enfin, je pense parler au nom de mes collègues. On a tous témoigné notre soutien à Cécile, on a tous été choqués. Après, voilà, ça reste malheureusement un fait. Il se trouve que Cécile est élue, donc... Elle en parle publiquement. Et alors, il y a quelque chose, moi, qui me choque profondément. C'est d'accuser le maire d'un manque d'humanisme. Et ça, je ne l'accepte pas. Il y a des choses que monsieur le maire pourra jamais dire par discrétion. Et certains ici ont été aidés par monsieur le maire. Ça ne sera pas dit. Alors, ça, moi, je n'accepte pas d'entendre de tels propos. Monsieur le maire, il a des qualités et des défauts comme tout le monde. Mais s'il y a bien quelqu'un qui est humaniste, c'est bien monsieur le maire. Voilà ce que je voulais dire pour ma part. C'est pas très, très financier, mais je tenais à vous en faire part.
Bien, merci madame Delmas. Bon, je vais juste réquisitoire de monsieur Pradérol. Bon, c'est un peu la même chose que d'habitude. C'est peut-être dit de façon différente. Enfin, c'est toujours pareil. Bon, vous n'avez pas... c'est pas le béton et les plumes, ce coup-ci. Mais enfin, c'est un peu pareil. On construit, etc. La commune est riche. Bon, on va pas se plaindre. Mais enfin, on peut pas vraiment appeler comme ça. Hein. Voilà, hein, y a quand même des communes bien plus riches que les nôtres. Alors après, sur les taux que vous avez attribués à mes deux mandatures... c'est pas 2 fois 3, c'est 2 et 3. Bon, voilà, donc vous avez des chiffres. Évidemment, après, vous avez fait un festival de millions. Alors, je n'ai pas écouté tous les millions parce que c'était un peu difficile, mais sur les chiffres un peu plus petits, disons, ça a attiré mon attention. Après, j'espère évidemment que vous ferez la même déclaration à la COBAS dans quelques jours sur les ressources, etc., etc. Bon, j'espère, parce que vous aussi, vous aimez beaucoup la présidente. Donc après, sur les investissements, des immeubles, bon, la politique, vous dites qu'on n'a pas besoin d'école, on n'a pas besoin de ci, etc. Enfin, sincèrement, vous avez bien vu qu'au cours des deux mandats, même si c'est la COBAS, bien sûr, mais toutes les écoles ont été refaites. Je pense que la qualité des établissements publics sont quand même énormes. Maintenant, il y a 3 espaces au niveau du centre social qui sont en rénovation. Le contrat local de la délinquance, vous dites n'importe quoi, il se réunit. Bon, c'est sûr qu'il n'y en a plus au niveau de la COBAS. Puisqu'il n'y en avait plus au niveau de la COBAS, je l'ai réinstitué au niveau local. Il s'est encore réuni le vendredi dernier. Vendredi dernier, il y a de plus en plus de partenaires. Il y a de plus en plus de partenaires. Maintenant, nous avons la maison des adolescents et nous avons un très, très bon travail de tous les intervenants, que ce soit Passerelle, que ce soit la maison des adolescents, la MDSI, etc. Tout le monde était là. On avait une trentaine de personnes qui étaient là. Il y avait la police nationale, la police municipale, il y avait tous les bailleurs sociaux, etc. Il y a une transparence parfaite et il y a un travail aussi qui est entrepris en permanence entre la police nationale et la police municipale. Et l'été, ma police municipale est mise à la disposition de la police nationale sur des points bien particuliers, etc. Bon, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Voilà. Après, au niveau de la mobilité, vous dites que c'est difficile, que c'est ci, que c'est ça. Enfin, quand même, il me semble que le tour de l'église, autour du centre-ville, au niveau du Baou, au niveau d'inversion de certains sens, d'un doublement pour aller au niveau du Baou, le tunnel de Sécari, toute la façade portuaire, etc. Enfin, rien, évidemment, à vos yeux, n'est important. Après, c'est sûr qu'on restructure le centre-ville, on continue, il y aura encore des constructions. Je vous signale que, de toute façon, il n'y a absolument plus, depuis une vingtaine d'années, de lotissements. hein, par rapport à d'autres villes. Il y a 600 hectares qui ont été redonnés en zone naturelle. C'est quand même très très important. Et que c'est vrai, on reconstruit la ville sur elle-même et qu'il y a encore un certain nombre d'immeubles qui, avec des restructurations, qui vont avoir lieu. Et après, évidemment, et nous pourrons continuer évidemment certains problèmes de mobilité qu'il est pour le moment difficile à faire. Évidemment, j'entends bien traverser le trottoir d'en face, enfin, c'est caricatural. Voilà. Et puis après aussi le PPP, bon, on n'a jamais résilié le PPP. Voilà, bon, bref. Donc je ne vais pas en dire plus. Et puis bon, vous racontez aussi au niveau de l'emploi. On est quand même, la Teste de Buch est quand même, après Bordeaux, le bassin d'emploi le plus important. Nous avons près de 11 000 emplois. Et quelque part, voilà, on peut s'enorgueillir. Mais moi, je vous dis quand même, parce qu'on a l'air de dire la zone d'activité, il n'y a que ci, il n'y a que ça, il n'y a que des choses négatives. On a quand même près de 11 000 emplois. Il y a quand même des gens qui sont bien contents, hein, qu'il y ait un accompagnement économique dans cette commune, contrairement à ce que vous avez fait pendant votre mandature. Voilà. Bien, donc, pour conclure, si vous voulez... ce compte administratif, moi je le trouve évidemment très très bien. Donc vous avez vu qu'on a continué à avoir des investissements élevés, hein, 17 millions d'équipements, une bonne maîtrise des charges, conjuguée à un désendettement puisque nous n'avons pas emprunté cette année. Nous n'allons pas augmenter les impôts, hein, c'est la cinquième année et ni en 2020, hein, de toute façon je peux l'annoncer aussi. Les ressources sont en progression et dont le résultat exceptionnel nous garantit donc de pouvoir financer les projets à venir. Et les projets à venir sont nombreux, n'en déplaise à certains. Bien, maintenant avec l'accord de l'Assemblée, je propose de désigner M. Vernière pour prendre la présidence de cette Assemblée pour faire voter le compte administratif si personne n'y voit d'inconvénient. Personne, mais très bien. Donc, M. Vernière, vous avez la présidence et Mme Delmas va vous lire la délibération.
C'est normal, je suis là.
Merci, M. le maire. On va attendre qu'il sorte quand même.
Bon.
Voilà, Mme Delmas, vous pouvez lire la délibération.
Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Mes chers collègues, après avoir entendu le rapport de présentation du compte administratif, considérant que Monsieur Vernière, Premier Adjoint, a été désigné pour présider la séance lors de l'adoption du compte administratif, considérant que Monsieur Jean-Jacques Hérol, maire, s'est retiré pour laisser la présidence à Monsieur Vernière pour le vote du compte administratif, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par l'ordonnateur, après s'être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l'exercice considéré, vu le compte de gestion de l'exercice 2018 dressé par le comptable, vu le compte administratif 2018 et son rapport de présentation, qui peuvent se résumer comme suit pour le budget principal, section de fonctionnement, total des dépenses de fonctionnement 34 430 916, total des recettes de fonctionnement 42 165 588, un résultat de fonctionnement de l'exercice de 7 734 672, un résultat de fonctionnement antérieur reporté de 18 127 798, donc un résultat de fonctionnement affecté de 25 862 470. En section d'investissement, un total de dépenses de 21 636 710, un total de recettes d'investissement de 11 575 112, un solde d'exécution d'investissement de moins 10 061 598, un solde d'exécution antérieure reporté de 11 899 975 euros, un solde d'investissement cumulé de 1 838 376 euros et des soldes restes réalisés de moins 7 937 284 euros, ce qui nous fait un solde cumulé de clôture de 19 763 562,26 euros pour le budget principal. Pour le budget annexe île aux oiseaux, un total des dépenses de 94 348 euros, un total des recettes de fonctionnement de 108 540 euros, un résultat de fonctionnement de 14 192 euros, les résultats antérieurs de 180 906 euros et donc un résultat de fonctionnement affecté cumulé de 195 098 euros. Pour la section d'investissement, un total de dépenses de 1023 euros, un total de recettes de 16 688 euros, un solde de 15 665 euros, un solde antérieur reporté de 38 947 euros, un solde d'exécution cumulé de 54 612 euros et donc un solde cumulé de clôture de 249 711 euros. Pour le parc des expositions en fonctionnement, un total de dépenses de 46 338 euros, un total de recettes de 88 005, un résultat de fonctionnement de 41 667 euros, un résultat antérieur de 112 203 euros, un résultat affecté cumulé de 110 112 euros. Pour la section d'investissement, un total des dépenses de 41 210 euros, un total de recettes de 50 489 euros, un solde d'exécution de 9 278 euros, les soldes antérieurs reportés de moins 43 758 euros, un solde cumulé de moins 34 479 euros et donc un solde cumulé de clôture de 75 632,64 euros. Et enfin, pour le pôle nautique, en section de fonctionnement, un total de dépenses de 539 984 euros, un total de recettes de 548 909 euros, un résultat de fonctionnement de 8 924, un résultat antérieur de 170 957 euros et un résultat cumulé affecté de 179 880 euros. En section d'investissement, un total de dépenses de 5 800 euros, un total de recettes de 44 747 euros, un solde 2018 de 38 945 euros, un solde antérieur reporté de 99 058 euros, un solde cumulé de 138 004 euros et un solde cumulé de clôture de 317 886,80 euros. Il vous est donc proposé, mes chers collègues, d'approuver le compte administratif 2018 tel qu'il vous a été présenté, de constater aussi bien que la comptabilité principale pour chacune des comptabilités annexes, les identités des valeurs avec les comptes de gestion, de reconnaître la sincérité des restes réalisés, d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, charger Monsieur le maire de l'ensemble des formalités y afférentes.
Merci Madame Delmas. Bien, nous allons procéder au vote de ce compte administratif. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Ah oui, budget par budget, pardon. Là, on a fait le budget principal. Mais c'est le même vote pour les autres budgets ? Alors, donc, la halte nautique, qui s'abstient ? Qui est contre ? Le parc des expositions, qui s'abstient, qui est contre. Et l'île aux oiseaux, qui s'abstient, qui est contre. Et je pense que nous avons fait le tour de l'ensemble des budgets. Bon. Je vous remercie. Vous avez tout noté ? Bien, on va chercher Monsieur le maire pour reprendre la suite du conseil municipal. Merci à vous. Parce que c'est Madame Delmas qui va reprendre la suite du conseil.